Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
En ce début de week-end de Pascal, c'est Courbette et Baise-Main chez Franck Ferrand sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Nous allons faire en effet un petit tour dans le Gotha aujourd'hui, c'est-à-dire dans le monde très fermé des princes et princesses de cette vieille Europe qui continue tout de même à faire rêver la planète. Et pour Cicérone, nous aurons Guilain de Disbach en personne et l'un des piliers de la rédaction de Point de Vue.
En préambule, vous souhaitez évoquer une jeune reine que les Belges n'ont jamais oubliée.
Et oui, la divine Astrid de Suède, reine des Belges, un peu plus d'un an seulement, puisque son règne s'est achevé brutalement dans un accident de voiture en Suisse. C'était le 29 août 1935.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Regardez-les comme ils sont beaux, radieux, éclatants de santé. Ce jeune couple en tenue montagnard, parti pour son dernier jour de vacances à l'assaut d'un sommet alpestre, ce sont, tenez-vous bien, le roi et la reine des Belges. Léopold III et Astrid ont passé quelques jours dans les Dolomites avant de venir se reposer ici en Suisse, près de Lucerne. Non mais regardez-la, cette belle, cette sublime Astrid, celle que toutes les rédactions d'Europe ont longtemps surnommée la princesse du Nord, elle est scandinave, suédoise exactement, et qui est maintenant la reine des Belges. Cette idole des foules était la princesse du Nord, certes, elle était d'une façon plus générale la princesse des cœurs. Elle est montée sur le trône aux côtés de son mari à la faveur du décès de son beau-père, le roi chevalier Albert Ier, lui-même adepte de l'alpinisme, et mort accidentellement au cours d'une escalade au milieu des rochers de Marche les Dames, près de Namur. Même en vacances, les servitudes du métier de roi ne sont jamais très loin. La semaine précédente, le jeune roi Léopold, vous avez compris qu'il ne règne donc que depuis 18 mois, Léopold a dû faire l'aller-retour à Laeken, près de Bruxelles, pour y recevoir le président de la République française, Albert Lebrun. Mais depuis 3 jours, ce sont pour le couple royal des vacances totales. Même les enfants, Joséphine Charlotte, la future grande duchesse de Luxembourg, Baudouin et Albert, tous deux futurs rois des Belges, même les enfants sont partis, ils sont rentrés à Bruxelles où ils attendent leurs parents. Autant dire que les vacanciers prennent du bon temps, ils sont presque des estivants comme les autres, chaussés de solides bottines de montagne. Tenez, ils viennent de sortir de leur villa de Orf, le roi est en train de s'installer au volant de sa voiture de sport, un superbe roadster américain qu'il met un point d'honneur à conduire lui-même. Le chauffeur en sera quitte pour monter en postillon, si je puis dire, dans le Spider. Le Spider, vous savez, c'est cette sorte de malle arrière qui est dotée d'un petit siège d'appoint pour les passagers de fortune. Le moteur surpuissant vrombit déjà. Et la jeune reine, oh la jeune Astrid, prend son temps. Elle profite du bon air et du soleil ardent, un peu frais tout de même, il a plu une partie de la nuit. Elle a donc revêtu un tailleur de laine assez douillet. Elle sourit, et quel sourire! Et quel regard bleu, intense! Pas étonnant qu'elle traîne souvent dans son sillage une meute de photographes comme aimantés, magnétisés par les yeux les plus célèbres d'Europe. Disons que ceux de Michel Morgan ne sont pas encore connus en ce mois d'août 1935. Léopold fait ronfler le moteur, il s'impatiente. Astrid monte à côté de lui dans l'auto décapotée. Elle décoche à son époux impatient un regard plein de malice et de tendresse mêlée. Ils ont beau être mariés depuis 10 ans, ils s'aiment ou presque, ils s'aiment toujours autant. Le coupé sport démarre, ils serpentent déjà sur la petite route de montagne, des sapins, des lacs. Un paysage pur, Astrid pourrait se croire dans sa Suède natale. Elle y a vu le jour 30 ans plus tôt, à Stockholm, le 17 novembre 1905, dans le foyer du prince Charles de Suède, le second frère du roi Gustave V. Une enfance parfaitement paisible, je dirais une enfance heureuse, studieuse, entre l'enseignement traditionnel voulu par la mère d'Astrid, la princesse Ingeborg, et de belles vacances à Fridhem, l'été. Une très jolie résidence nichée parmi les pins et les bouleaux, tout près de lacs magnifiques. C'est un peu finalement le même décor que celui de la propriété des Belges en Suisse. C'est chez sa sœur Margrethe, devenue princesse de Danemark, que Astrid a vu pour la première fois le jeune, beau, timide prince tout blond dont son cœur s'est aussitôt épris. Il s'agit de l'héritier du trône de Belgique, le prince Léopold, duc de Brabant, qui de son côté a ressenti un véritable coup de foudre pour la belle suédoise. On verra bientôt Léopold multiplier les séjours en Suède. Cette histoire est un vrai conte de fées. Vous savez, une de ces histoires d'amour partagé qui sont assez rares dans le monde et qui sont encore bien plus rares dans l'univers très contraignant des cours d'Europe. Les deux tourtereaux se sont fiancés le 20 septembre 1926. Ils ont respectivement 25 et 20 ans. Ils sont beaux comme le jour. La presse unanime en fait ses chouchous. Ils se marieront dès novembre. Pourquoi attendre ? Mariage civil à Stockholm le 4. Mariage religieux à Bruxelles le 10. Peut-être la plus belle fête de toute l'histoire de la Belgique. C'est une union nimbée de bonheur, couronnée par la naissance de 3 enfants. Et puis, quand Léopold est monté sur le trône après l'accident fatal de son père, donc en février 1934, la nouvelle reine Astrid devient pour les Belges comme une sorte de figure tutélaire, de sainte bienveillante. Elle n'avait qu'une pensée, faire le bien, diront tous ceux qui l'ont connue. Je cite, si je le retrouve, le voilà, le comte Sforza. Chaque geste, chaque sourire d'elle avait l'air de dire « Je suis heureuse, que puis-je faire, mon Dieu, pour que tout le monde soit heureux et pour faire disparaître le plus de souffrance possible ?» On raconte cette anecdote. Un jour, Astrid a reçu dans son abondant courrier la lettre de l'épouse d'un chômeur qui, on est en pleine crise hein, évidemment, cette dame l'informait que son mari avait exactement la même taille que le roi. Eh bien, il paraît que le soir même, en rentrant, Léopold, furieux, constata des coupes claires dans sa garde-robe. Je dis furieux, en fait, Léopold n'était jamais furieux très longtemps, que voulez-vous ? Sa femme, il l'aimait, et mieux que ça, il l'adorait.
Dites-lui qu'on le trouve aimable. Dites-lui que s'il le voulait, on ne sait de quoi l'on serait capable. Ah, s'il lui plaisait.
Sur Europe 1, cet extrait de La Grande Duchesse de Gerolstein de Jacques Offenbach.
Alors revenons à notre route de montagne en Suisse. À la demande de Léopold, Astrid a sorti une carte routière de la boîte à gants. Le roi, il faut dire, est un peu perdu. Il attend une indication rapide. Seulement voilà, lire une carte n'est pas vraiment le fort de cette jeune reine. Elle hésite, elle fronce les sourcils. Léopold soupire et sans ralentir pour autant, il tourne les yeux vers la carte. Ah, un instant seulement, une seconde ou deux d'inattention. Mais c'est déjà trop. Le moteur est puissant, il y avait là un virage que le roi n'a pas vu à temps, le roadster heurte le parapet au bord du ravin, il échappe au contrôle du pilote, il devient fou, dérape, fait un tête-à-queue, glisse sur le talus et heurte violemment un arbre avant d'aller buter contre un autre à 15 mètres, puis capote et vient finir dans les roseaux, près du lac. Les occupants de la décapotable ont été éjectés, vous l'imaginez. Le premier à reprendre ses esprits, c'est le chauffeur qui se trouvait à l'arrière dans le Spider. Il accourt vers le roi et la reine qui sont étendus tous deux sans connaissance dans un verger. C'est vraiment une vision de cauchemar pour cet homme dont on imagine l'émotion, la stupeur horrifiée lorsqu'il tombe sur ces deux corps inanimés, ensanglantés. Quel contraste entre cette tragédie instantanée et le paysage qui lui est toujours aussi serein tout autour, aussi ensoleillé, rempli du chant des petits oiseaux. Deux voitures se sont arrêtées au bord de la route, puis une troisième. Bientôt on s'attroupe, échange rapide de renseignements. Le bourg le plus proche est Küsnacht, où l'un des témoins est déjà parti quérir un médecin. Quand celui-ci arrive, il doit écarter plusieurs badauds et il trouve le roi Léopold qui a repris connaissance, agenouillé près de sa jeune épouse qu'il tient dans ses bras, qui l'étreint, la suppliant de se réveiller. Mais la reine Astrid ne bouge plus. Le médecin l'examine. Il secoue la tête. Elle est morte. Chose incroyable, la plus vivante, la plus éclatante des têtes couronnées qu'on ait vues depuis longtemps est là, sans vie, dans ce verger de montagne où la stupeur est en train de faire place à la désolation. Le roi, qui en définitive n'a été blessé qu'assez légèrement, accompagne la dépouille de sa femme adorée, de sa reine, de son Astrid du Nord, que personne, et surtout pas lui, ne peut encore imaginer défunte. Alors, sans faire de grandes phrases, je vous le dis tout simplement, pour la Belgique, et pour la Suisse, et pour l'Europe royale, et pour l'Europe tout court, pour le monde entier, l'annonce de cette mort brutale, de cette vie radieuse, fauchée de cette façon, a fait l'effet d'un coup en plein cœur. Je cite le grand reporter Albéric Cahuet, c'est un de mes chouchous, vous savez. Il parlait de la cérémonie d'obsèques du roi Albert Ier. Il se rappelait ce beau jour, en quelque sorte, malgré le caractère funeste de l'événement. Beau jour que la présence consolante d'Astrid avait littéralement illuminé, je le cite. La jeune reine, la jeune mère inclinait son clair visage sous les voiles et dirigeait le geste d'amour de ses enfants vers tous les enfants qu'on lui tendait. Elle passait dans le carrosse des jours d'histoire, précédée de son roi à cheval, et l'on courait derrière la double haie de garde pour tenter de la voir encore si fine, si grave, si tendre, si belle. Ah, comme tous ceux qui ont à cet instant connu la magie de ce printemps royal, ont reçu en plein cœur la nouvelle de l'aveugle tragédie, des choses où s'éteint une radieuse lumière. Le cercueil scellé de la reine Astrid, Astridke comme l'appelaient affectueusement les Bruxellois, notre petite Astrid, ce cercueil est arrivé par le train à 6h du matin dans la capitale. On l'a chargé dans un corbillard qui l'a conduit jusqu'au palais royal à travers une ville en pleurs, terriblement silencieuse, dont tous les réverbères ont été voilés de crêpes noires. Au palais, dans la salle du penseur, le cercueil est rouvert et apparaît alors ce corps déjà embaumé que l'on revêt d'une robe de soie blanche semée de bouquets de violettes. On lui place un crucifix d'argent sur la poitrine. Les traits de la princesse du Nord sont inchangés, peut-être même plus purs encore. Avant que n'entre la foule anonyme qui, 3 jours durant, va défiler devant la dépouille, le jeune roi est là, seul, qui veille sa femme et vacille sous le double poids de sa peine, évidemment, et de la culpabilité qui le ronge. Pourquoi a-t-il pris le volant ce matin-là? C'est le destin, murmure-t-on autour de lui pour le rasséréner. Ça n'aurait rien changé. Lui sait bien ce qu'il convient d'en penser.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Nous évoquons le destin tragique de la princesse du Nord, de la reine Astrid, cet après-midi sur Europe 1. N'hésitez pas à poser vos questions au 39-21, 34 centimes d'euros par minute ou sur europe1.fr.
Alors Caroline, cette pauvre reine Astrid que nous avons vue mourir dans ce paysage alpestre n'était en quelque sorte qu'une entrée en matière, puisque grâce à notre invité d'aujourd'hui, Guilain de Diesbach, que je suis très heureux d'accueillir à Europe 1, nous allons pouvoir parler de l'ensemble de ces familles princières d'Europe, princières, grand-ducales, ducales même, bref, le Gotha, comme on l'appelait autrefois. Vous venez de publier une nouvelle édition de vos fameux secrets du Gotha, Guilain de Diesbach, chez Perrin, et nous allons, en votre compagnie, nous promener comme ça, comme vous le disiez très joliment tout à l'heure en régie, nous allons sauter de branche en branche sur le grand arbre généalogique de ces familles de la vieille Europe, et pour nous aider à nous y repérer, au cas où, j'ai demandé à mon ami, évidemment, grand journaliste, grand spécialiste de ces questions, à mon ami Philippe Segui d'être avec nous. Philippe Segui de la rédaction de Point de Vue. Point de Vue qui aujourd'hui fait sa couverture sur le bébé de Victoria de Suède, justement.
Absolument, qui s'appelle Estelle. Et selon la formule consacrée, la maman et la petite fille se portent idéalement bien. Et son papa, le duc de Strogoti, a évidemment fait le geste de montrer la taille de la petite princesse devant les photographes émus.
Alors, puisque vous parlez d'émotion, revenons peut-être à cet événement tragique de l'été 1935, la mort de la reine Astrid, aux côtés de son mari qui donc était au volant, le roi Léopold III. On peut dire que c'est une vraie rupture dans le règne de Léopold III, Guilain de Diesbach.
C'est une rupture aussi dans les usages, parce qu'en principe, un souverain ne devrait pas conduire lui-même sa voiture.
Et voilà.
Et si les souverains ne s'obstinaient pas maintenant à vivre en simple particulier tout en profitant des avantages monarchiques, des choses comme ça n'existeraient pas.
Vous êtes en train de nous dire qu'ils ont une fâcheuse et singulière tendance à gagner maintenant sur les deux tableaux. C'est-à-dire que tout en bénéficiant des avantages de la position princière,
exactement,
ils n'ont quasiment plus aucune des contraintes qu'avaient autrefois les souverains.
C'est ce que j'ai écrit d'ailleurs dans la conclusion de mon livre.
Oui. Il y a comme ça une sorte d'évolution. Est-ce que vous pensez qu'elle est irréversible?
Je le crains, mais elle est fâcheuse.
D'ailleurs, nous parlions de ce bébé de la princesse Victoria de Suède, en l'occurrence qui s'appelle Estelle, et Philippe Séguin nous disait qu'il n'y a pas de tradition dans la famille, on ne sait pas pourquoi elle s'appelle Estelle.
En fait, il ne faut pas non plus oublier que la princesse Victoria a épousé Daniel Wessling, qui lui-même ne fait pas partie du tout du Gotha, puisque c'était son professeur de fitness, et que c'est dans une salle de sport, je n'ai rien contre les salles de sport, je m'empresse de le dire, qu'elle a rencontré le dit jeune homme en question. Mais je pense que c'est une, pour rebondir un petit peu sur ce que M. Diesbach vient de dire, je pense que c'est une évolution, on peut la constater, peut-être faut-il simplement se dire que elle est, je dirais, naturelle en fonction de l'évolution, peut-être, du monde dans lequel on vit. Ce n'est pas facile d'être une altesse impériale régnante ou royale. L'intérêt, c'est peut-être de se mettre aussi à l'écoute de ses concitoyens.
Oui, mais autrefois, on avait trouvé un procédé pour pallier à ce défaut. Il y a, dans des monarchies, il y a eu des reines dont on attendait un héritier. Le roi ne pouvait pas faire l'héritier. Ça s'est passé notamment au Danemark autrefois, où on faisait faire l'héritier par un courtisan complaisant, mais il n'y avait pas de problème. Tandis que maintenant, de vouloir officialiser une mésalliance, c'est une erreur.
Alors le roi Léopold III avait commencé brillamment son règne après la mort accidentelle d'Albert Ier, et puis on peut dire que ce règne va peu à peu s'enliser en quelque sorte. Cet accident l'a marqué à jamais.
Il succédait à un roi extrêmement populaire. Donc c'est très
difficile. Le roi chevalier Albert Ier, qui était le roi de la Première Guerre mondiale.
Oui. C'est difficile d'assurer la succession. Et il avait une mère très énergique, la reine Élisabeth, qui a vécu très longtemps. Et donc pour lui, la position n'était pas facile. Mais on ne lui demandait pas non plus, il n'y avait pas de guerre à l'horizon, on ne lui demandait pas de qualité non plus exceptionnelle.
Il y a eu une guerre, finalement.
Et en fait, je crois que ça a été un grand calomnier, parce qu'il a toujours fait son devoir. Et le plébiscite qui a eu lieu après la guerre, pour savoir si on autorisait ou non le retour du roi, parce qu'on lui a reproché beaucoup d'être resté. Je trouve que là, au contraire, on devrait lui tirer son chapeau, car quand tout le monde s'enfuyait à Londres, aux États-Unis, lui est resté. Ce qui est courageux. Et peu de souverains qui ont fait la même chose.
Donc c'était un choix qu'il a fait.
C'est un choix qu'il a fait, mais ce qui lui a nui, c'est son remariage pendant sa demi-captivité royale en Belgique, mais il fallait bien que...
Sa seconde épouse était très impopulaire, à peu près aussi impopulaire que la première a été populaire.
Impopulaire, justement, parce qu'elle bénéficiait, si je peux dire, du contraste. Elle était une personne beaucoup plus remarquable et beaucoup plus intéressante et beaucoup mieux née, d'ailleurs, qu'on ne l'a dit. C'était une femme charmante qui s'est très bien occupée de ses beaux enfants avant d'en avoir elle-même et qui était très aimée du roi Baudouin et de son frère.
Les beaux-enfants en question, les enfants du premier lit, étaient donc Joséphine Charlotte, qui sera de grande-duchesse de Luxembourg,
oui.
Le roi Baudouin, puisqu'il a succédé à son père.
Oui. Mais le retour du roi a été accepté en principe, parce que le plébiscite était en sa faveur, mais comme on menaçait aussitôt de faire une grève des mineurs, à l'époque les mines étaient importantes, devant un risque de conflit social, le roi a préféré abdiquer en faveur de son fils, après la régence du prince Charles.
De Baudouin, donc.
Et c'est donc Baudouin qui est devenu roi, mais qui restait très inféodé pendant longtemps à son père, jusqu'au moment où il a pris son indépendance et on l'a fait comprendre au souverain, à l'ancien souverain Léopold III, qu'il valait mieux quitter la Belgique.
Alors Baudouin règne avec son épouse Fabiola,
oui.
Qui était princesse d'Aragon, elle.
Non, pas princesse d'Aragon, non. Elle était de Morail à Aragon, mais ça n'avait rien à voir avec les princes d'Aragon.
Ah, c'est pas la famille
d'Aragon. Non, pas du tout.
C'est une bonne famille de l'aristocratie espagnole.
C'est une famille récente de l'aristocratie espagnole.
D'accord.
Je crois que le titre a été hérité, mais enfin, c'est un titre qui doit dater du XXe siècle, avant la chute de la monarchie.
Voilà le genre de remarque que je suis heureux d'avoir suscité, parce qu'on est en plein Gotha, là, on est dans l'almanach.
C'est une famille relativement récente, riche. Qui a hérité d'un marquisat, mais ce n'est pas du tout des princes d'Aragon, des anciens souverains d'Aragon ou de Castille. Enfin, non. Oui.
Alors, comme Baudouin et Fabiola, que vous connaissez bien, Philippe, pour avoir écrit sa biographie.
Oui.
Comme ils n'ont pas eu d'enfants, c'est le frère de Baudouin, Albert, qui monte sur le trône donc à sa mort et qui devient l'actuel souverain.
L'actuel roi des Balles, c'est ce qui est assez intéressant à souligner, c'est que cet homme qui s'était destiné finalement à vivre dans l'ombre de son frère Baudouin et de sa belle-sœur Fabiola, éminemment populaire, on parlait de la popularité de la reine Astrid, mais la popularité de la reine Fabiola était tout aussi exemplaire en Belgique. À l'heure où cet homme aspire à la tranquillité, il monte sur le trône de Belgique et devient Albert II, roi des Belges, avec son épouse Paola, qui elle aussi est issue d'une grande famille.
Une grande famille de Calabre,
voilà.
Oui.
Alors, juste après la publicité, nous allons venir à ce qui est précisément l'almanach de Gotha, D'où est-ce que cet annuaire venait? De quoi s'agit-il exactement? À quoi servait-il? Pourquoi n'existe-t-il plus? Autant de questions qui nous permettront peut-être de clarifier le sujet avant de reprendre notre pérégrination à travers les différentes familles royales et princières de la vieille Europe.
Jusqu'à 14h sur Europe 1,
plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
La grande duchesse de Gerolstein, de Jacques Offenbach. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, aux côtés de Franck Ferrand cet après-midi, Ghislain de Diesbach et Philippe Séguy.
Les secrets d'Ugotha, paru chez Perrin, c'est l'un des grands ouvrages de Ghislain de Diesbach qui nous fait l'honneur d'être avec nous cet après-midi. Alors, ce Gotha dont on parle, c'est évidemment directement, ce terme est directement tiré de l'almanach d'Ugotha, qui n'est plus édité depuis 1944 et qui néanmoins continue d'être constamment cité. Au même titre que l'Ordre des Jésuites, le Canal de Suez ou le Saint-Empire romain germanique, écrivez-vous Ghislain de Diesbach, auquel il demeurait nostalgiquement attaché, l'almanach de Gotha est entré dans la mythologie européenne et cette consécration lui a fait gagner dans le domaine du merveilleux tout ce qu'il a perdu dans celui du réel, puisque depuis 1944, sa publication est suspendue.
Elle a été reprise partiellement après la guerre, mais dans une série de publications qui étaient dispersées, faites par ordre alphabétique, ce qui fait qu'on ne pouvait jamais avoir ce manuel indispensable qui était en fait un petit almanach rouge qu'on pouvait consulter. Et je dois dire à cet égard...
Au départ, c'était très alors, mince, c'était, hein, ça faisait quelques feuillets.
C'était un petit almanach de cour publié par la cour de Gotha, ce qui fait que le nom de la ville est devenu
le nom même du
livre. Et petit à petit, il a été étoffé. Mais au milieu du 19e siècle, par exemple, il était encore relativement mince. Et puis petit à petit, l'ambition est venue et on a eu une première partie. Il y a trois parties dans le Gotha. Une première partie consacrée aux familles royales, régnantes. Une seconde aux familles médiatisées. Une troisième aux familles ducales et princières d'Europe. Mais toutes n'étaient pas inscrites. Et puis, il y avait une seconde division du Gotha. C'était un annuaire diplomatique et statistique. Mm-hmm. Avec les noms de tous les souverains, même républicains d'Europe, les ressources, les ministères, les ambassades, vous trouviez les superficies, les budgets de chacun des ministères. C'était donc très important. Et la preuve que c'était très important, c'est que quand Bismarck a dicté des conditions de paix à la France en 71, il a demandé 1 milliard d'indemnités. Et un de ses conseillers, qui lui connaissait le Gotha mieux que Bismarck, lui a dit, vous pouvez demander beaucoup plus, la France est beaucoup plus riche que vous ne le croyez. J'ai passé la nuit à étudier le Gotha, le budget de la France, demandez 5 milliards. Vous voyez, le Gotha a coûté
influence
à la France
néfaste.
5 milliards.
Influence néfaste du Gotha.
Et le Gotha n'a cessé de prospérer jusqu'en 14. La guerre lui a porté un coup parce qu'il a fallu réviser beaucoup de notions aristocratiques du Gotha, en incluant notamment tous les pays allemands, les États allemands nouveaux. Alors donc, on a été obligé de faire figurer à côté du portrait de la grande duchesse de Luxembourg, le portrait du président de la République allemande, par exemple. Mais je n'ai jamais pu me procurer d'exemplaires des années 35-40 pour voir si Hitler figurait dans le Gotha.
Oui, ce serait intéressant de le vérifier.
On en avait mis d'autres, présidents allemands. J'ai pas pu le vérifier. Ça.
Alors, cet almanach était un peu, si l'on peut dire, une sorte de wouzou ou mieux de bottin mondain, mais à l'échelle de toute l'Europe. Hein. C'est-à-dire qu'on parle bien sûr d'abord des familles d'Allemagne, mais pas seulement, loin de là.
Non, toute l'Europe, avec même des incursions du côté de Constantinople. Il y a deux ou trois familles qui avaient été, la famille Bellicale de Tunisie avait été prise en compte. Et Guillaume II était d'ailleurs furieux. Il voulait absolument limiter. Il y a la famille impériale du Japon est représentée aussi. Mais très lacunaire parce qu'on n'arrivait pas à se procurer les dates des princesses, les dates des mariages. Donc il y a beaucoup de points de suspension. Mais Guillaume II avait lutté contre cette universalité du Gotha en dehors de l'Europe.
Alors au-delà de l'ouvrage lui-même, de cet almanach de référence, le Gotha est devenu l'emblème de
toutes les grandes familles, de toutes les grandes familles régnantes, en tout cas, ou ayant régné, disons, c'est ça.
La Bible, et c'est là d'ailleurs où quand...
Bible des vanités terrestres, dites-vous.
Quand des souverains voulaient marier leur fille ou leur fils, on commençait par feuilleter le Gotha pour voir quels étaient le prince ou la princesse éligible qui correspondait aux critères de l'époque.
Et c'est ce que je trouve le plus intéressant dans toute cette affaire, c'est le caractère familial que pouvaient représenter toutes ces alliances internationales. Par exemple, puisque nous étions en Belgique, nous remontons au début du XXe siècle avec le roi Léopold II qui va marier, et d'ailleurs que de drames et que de tragédies dans cette famille, mais qui va marier ses filles à un certain nombre, à différentes grandes familles précisément. Je pense évidemment à Clémentine qui devient l'épouse du prince Napoléon.
C'était le seul mariage heureux d'ailleurs.
Absolument.
Les deux
autres
mariages ont été catastrophiques.
Mais Stéphanie n'en parle pas. Oui.
Mais ce qui est assez fascinant justement, et on le voit très bien dans le livre de M. Diesbach, c'est que finalement le Gotha, c'est l'Europe avant la lettre. C'est l'Europe royale avant les traités de Maastricht ou de Rome. Ce sont des familles qui marient leurs fils et leurs filles. Certains mariages sont heureux, certains mariages le sont moins. Vous parlez de la Belgique, on pourrait évoquer évidemment l'Angleterre, avec une Victoria toute dévouée, toute amoureuse de son célébrissime prince Albert. Alors que les enfants et petits-enfants de Victoria ne connaîtront pas toujours des mariages aussi séduisants et agréables.
La Victoria était moins gotha qu'on ne le pense.
Oui, elle était assez bienveillante envers les mariages morganatiques.
Elle trouvait que de marier ses filles à des princes ou des souverains étrangers, ça lui coûtait très cher. Il fallait fournir des dots en rapport avec la puissance britannique.
Très nombreuses en plus.
Alors, je préfère de beaucoup que nos princes et nos princesses se marient dans des familles aristocratiques du pays, parce qu'il y avait beaucoup moins à donner. Et ça faisait beaucoup moins de complications internationales.
Alors, par exemple, on l'a dit déjà à plusieurs reprises à ce micro, et on va en reparler à l'occasion des célébrations, bien sûr, du jubilé de la reine Elisabeth II, mais la famille royale britannique actuelle est une famille allemande.
Absolument, et c'est d'ailleurs assez étonnant de le dire et de le préciser, qu'au moment justement de la guerre, il a fallu changer de nom, et que l'aspect justement germanique du nom ancien ne plaisait évidemment pas aux compatriotes, et que les dynasties anglaises avant d'être appelé Windsor, avait été Hanovre, et que ce rapport justement privilégié qu'il y avait avec l'Allemagne devait être évidemment un peu oublié à ce moment-là. Beau travail accompli d'ailleurs par les souverains. On parle toujours de popularité, restons positifs. Quand on voit celle dont bénéficie la reine actuelle, plus de 80% des Britanniques se déclarent satisfaits de leur reine et de la monarchie. Je pense à nos candidats qui aimeraient aujourd'hui avoir... autant de bonnes nouvelles.
Moins cher qu'une élection présidentielle.
Et un train de vie monarchique coûte moins cher également qu'un train de vie présidentiel.
En tout cas, pour rassurer certains de nos auditeurs qui doivent se demander où nous sommes partis, je rappelle que toutes ces monarchies, notamment toutes les monarchies du nord de l'Europe, pas seulement, sont des démocraties. Ce qu'il ne faut jamais oublier, nous avons tendance, nous en France évidemment, avec notre histoire, nous avons tendance à assimiler démocratie et république. Ce sont des monarchies et qui n'en sont pas moins non seulement des démocraties, mais souvent des démocraties exemplaires.
Absolument.
Du reste.
Et ce sont des démocraties excessivement, c'est pour ça que nous abordions ce point au début de l'émission, ce sont des monarchies qui sont extrêmement proches de leurs concitoyens, et sans vilain jeu de mots, ce sont des monarchies à bicyclette, ce sont des gens qui sont réellement proches de leurs concitoyens, j'insiste véritablement sur ce point, ce sont des monarchies économes, c'est-à-dire que le train de vie des familles royales de Suède, de Danemark ou de Suède sont des trains de vie relativement modestes, on fait attention à l'argent public.
Ils ont une fortune personnelle aussi.
Certes, mais presque moindre, si j'ose dire, que la famille de Belgique, par exemple. On sait que le roi Albert ou ses enfants ont une fortune assez importante.
Vous avez bien compris que ces questions de Gotha sont donc à la confluence de toutes sortes de grandes problématiques. La dynastie, évidemment, la famille et la fortune, la représentation nationale, la démocratie, le régime. Nous sommes au cœur de la politique européenne lorsque nous parlons du Gotha.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
13h49, on parle toujours du Gotha avec les invités de Franck Ferrand.
Et il y a quelques semaines, j'ai profité du passage dans cette maison de la princesse Maria Pia de Savoie, la fille aînée du dernier roi d'Italie, pour lui demander quels souvenirs elle avait gardé de son grand-père notamment, le roi Victor Emmanuel III.
On l'aimait beaucoup parce qu'il était tout petit.
Et pour des enfants, c'est merveilleux,
enfants,
un petit grand-père.
Et lui, le pauvre, il était rachitique et ses jambes n'avaient pas grandi. Bon, on ne pouvait pas comprendre ça comme enfant. Et on allait très souvent à la pêche avec lui.
Vous aviez évidemment un petit rôle, j'imagine, parce que vous étiez petite, mais vous aviez un petit rôle de représentation. On vous présentait au chef d'État, vous aviez...
Non, on ne voyait personne. On restait avec notre nanny anglaise.
Donc vous parliez à la fois l'italien et l'anglais?
Oui,
Et puis un peu le français, j'imagine.
Non.
Non, pas du tout.
Non, je l'ai appris à 12 ans. C'est drôle.
Parlez-nous de votre père, qui donc est le dernier roi d'Italie.
Et lui, ben on l'avait pas vu pendant la guerre, parce que nous, on était en Suisse et lui était dans le sud de l'Italie, avec le gouvernement. Mmh. Alors, on l'a pas vu pendant 2 ans.
Vous viviez c'est avec ça. Votre mère, donc, avec
notre
la reine Marie-Josée.
Oui, dans deux petits hôtels en Suisse.
Et la reine Marie-Josée était d'origine belge, il faut dire qui elle était, bien
oui,
entendu.
Oui, 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 c'était la fille du roi Albert et de la reine Elisabeth, qui elle-même était allemande, Wittelsbach. Elle était la petite nièce de l'impératrice Sissi d'Autriche.
Vous étiez évidemment petite, mais est-ce que vous avez été consciente au moment de l'abdication de votre grand-père que votre père devenait le roi d'Italie ?
Oui, parce que j'avais 11 ans. Et puis mon père était lieutenant général du royaume pendant 2 ans. Et quand on est revenu de Suisse en août 1945, après les bombes atomiques au Japon, il était là et mon grand-père habitait déjà dans la villa à Rome. Et mon père faisait tout déjà.
Et puis, ce référendum, qu'est-ce que vous avez à en dire ?
Oui, on a toujours dit après que c'était truqué, en faveur de la
République. Et dans votre famille, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, évidemment.
Je crois qu'ils ont tous dit ça.
Vous partez pour l'exil, donc un peu avant votre père, vous partez dès le 6 juin,
oui.
Vous, en fait.
Oui, je crois.
Et vous êtes parti, vous êtes allé au Portugal, où il vous a rejoint.
Oui, avec un croiseur. Et on a mis 3 jours. Et les enfants, on était ravis. On a vu des baleines, c'était très amusant.
Donc vous avez pris ça de très bonne façon,
oui,
si je peux dire.
Oui, parce que Missy, qui était avec nous, disait que c'est amusant, regardez, on fait un beau voyage.
Missy, c'est votre gouvernante.
Oui, qui était extraordinaire.
Merci beaucoup, Maria Pia de Savoie. L'ami, alors je ne sais pas l'italien, moi ça tombe mal. Vous allez nous le dire, d'ailleurs, le titre de votre album en italien.
La mia vita e i miei ricordi. Ma vie et mes souvenirs.
Merci infiniment. Philippe Séguy, on parle évidemment toujours de la monarchie britannique, un petit peu de la monarchie belge qui joue quand même un très grand rôle dans la crise politique que traverse ce pays. Beaucoup en ce moment de la monarchie espagnole, nous allons y venir dans un instant. L'ancienne monarchie italienne, les Français l'ont oubliée, disons-le.
La famille royale d'Italie, en fait, est une famille discrète, si j'ose dire, parce qu'en fait, au moment lorsque nous vivons, nous, en France, le Second Empire, l'Italie va vivre ce qu'on appelait le Risorgimento, c'est-à-dire en quelque sorte autour de la famille royale de Savoie, autour du ministre Cavour, une refonte totale de cet État qui n'existe pas en tant que tel que nous connaissons l'Italie aujourd'hui, mais qui est divisé en différentes principautés, en différentes villes qui sont justement toutes indépendantes. Ce qu'il faut bien, ce dont il faut se souvenir lorsqu'on parle de l'Italie, c'est du raffinement de la cour de Savoie. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont généralement mécènes, qui dans leur cour justement de Milan invitent souvent les artistes, les chanteurs, les écrivains, les musiciens. Et que chaque fois que quelqu'un bel esprit passe, je dirais, par Milan, il ou elle est invité à la cour du roi.
Ça, c'était la vieille famille de Savoie. Voilà. Évidemment, après l'unité du
Exactement.
Royaume, il s'installe
voilà.
à Rome.
Exactement, il s'installe à Rome.
Au Quirinal,
en ayant d'ailleurs des rapports difficiles avec le pape.
Le pape ne leur a pas pardonné.
Exactement, de leur avoir finalement volé ses états. Mais, et ce qu'il faut dire également... avant peut-être de redonner la parole à M. Diesbach, qui en parle dans son livre. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que, puisque vous évoquiez la princesse Maria Pia de Savoie, son père a tout fait contre le fascisme. Ce sont des gens qui se sont dressés contre Mussolini et qui n'ont jamais voulu, peu ou prou, être en rapport avec lui.
Vous avez remarqué, Guylain de Diesbach, la grande discrétion de la princesse Maria Pia quand on parle du référendum. Elle dit quelques mots seulement. On dit quand même que ce référendum a été complètement truqué et que si l'on avait respecté les résultats, la monarchie serait...
C'est exact. Mais la campagne royaliste, dirais-je, a été mal faite. Et l'Église n'y a pas prêté tout le soutien qu'on était en droit d'attendre d'elle, justement, en souvenir de la spoliation.
Voilà.
Mais si le roi... Victor Emmanuel était resté, il y a des chances qu'il y aurait eu des troubles dans le pays.
Alors que se passe-t-il en Espagne en ce moment ? Pardon de faire de l'actualité alors que votre ouvrage parle plus généralement de toute l'histoire de ces dynasties d'Europe.
Oui, je suis toujours prudent avec l'actualité.
Vous avez raison,
moi
aussi.
Trop d'amour propre. Mais l'Espagne, justement les derniers mariages royaux, sont la négation même du prestige royal. On ne peut pas respecter une princesse héritière, enfin une princesse future reine, dont on sait les origines. Bon, alors, dans le peuple, il y a toujours ce sentiment très net, pourquoi elle et pas moi ? Mmh. Tandis que quand les mariages étaient limités à des personnes de naissance égale, ça coupait l'envie de la plupart du peuple sur lequel on devait régner.
Mais je faisais allusion plus spécialement aux grandes réticences de l'opinion espagnole en ce moment à l'égard du comportement d'un des nouveaux membres de la famille espagnole.
Oui. Mais là, quand on fait des mariages comme cela, il y a toujours un risque.
Disons que c'est en train de se plaider en ce moment, si vous faites allusion évidemment à une étude d'Argarin qui a visiblement un petit peu abusé, peut-être.
Mais c'est grisant. Subitement, on passe d'un statut tout à fait ignoré, sauf dans les milieux sportifs, pour devenir subitement duc. Je ne sais, j'ai oublié quel titre on lui a donné. Mais enfin, bon, il y a de quoi se laisser griser. Mais la sagesse, le roi aurait peut-être dû veiller davantage aux agissements de ses gendres.
Ce que l'on découvre, enfin ce que l'on se rappelle lorsqu'on parcourt votre ouvrage, c'est qu'il y a bien sûr des dynasties françaises, royales et impériales. Je m'amusais récemment sur un tout autre sujet à découvrir que l'immense majorité de nos compatriotes ignorent que nous avons en France une famille impériale, par exemple.
Oui, enfin elles sont tout à fait réconciliées, parce que je me rappelle avoir vu la comtesse de Paris, la princesse Napoléon, partir bras dessus, bras dessous d'une soirée. Les liens sont devenus, grâce justement au Saxe-Coburg-Gotha, à tous ces mariages, les liens sont devenus beaucoup plus...
Le temps a fait son temps, a fait son œuvre et a peu à peu gommé les aspérités
comme on sait qu'il n'y a plus rien à se disputer, il n'y a plus de trône à revendiquer maintenant. Donc,
Alors que reste-t-il ? Je ne parle pas bien sûr de toutes les dynasties régnantes dont nous avons fait un très rapide survol, mais que reste-t-il de l'esprit du Gotha, de cette espèce d'élégance particulière, de... Que sont devenues les valeurs morales qui étaient censées incarner toutes ces familles princières ?
Elles sont incarnées maintenant par les descendants des anciens courtisans qui déplorent justement le train dont vont les choses. Et le Gotha n'est plus du tout le livre de référence des monarchies, mais c'est le livre de référence des nostalgiques.
Les secrets du Gotha de Guilain de Disbach, c'est publié chez Perrin. C'est une réédition, mais tout à fait actualisée.
Oui, j'ai changé certains chapitres, j'ai trouvé des informations, même sur des périodes anciennes, j'ai trouvé de nouveaux documents, donc j'ai remanié complètement le livre.
Merci beaucoup de nous avoir entrouvert les pages de ce très beau livre. Merci à Philippe Segui de nous avoir accompagnés. Pour ceux qui vont prendre le train, je sais qu'ils vont être très nombreux cet après-midi et ce soir, ils peuvent toujours se procurer Point de vue dans les kiosques.
J'aime beaucoup lui dans les
Merci beaucoup. Alors pour réconcilier monarchie, empire et enfin royauté, empire et république, il y a un grand spectacle en ce moment ou très bientôt. Ça commence le 11 avril prochain. Ça s'appelle La Nuit aux Invalides. C'est un spectacle monumental en trois dimensions, nous annonce-t-on. Un spectacle qui est diffusé sur les façades même de cet extraordinaire monument. Sans doute la plus belle architecture qu'on puisse voir dans Paris. Et la narration est assumée par Jean Pia, Céline Duhamel et André Dussolier. Donc, La Nuit aux Invalides, c'est du 11 au 18 avril prochain.